Sur le pont des arts, Nathalie Amar.
Bonjour à toutes et à tous. Chez les Chédid, la musique et l'écriture sont une affaire de famille. Celle qui a ouvert la voie, c'est André, pour qui la poésie était une forme de libération, une façon de percer les cloisons, disait-elle. Elle a aussi été romancière, dramaturge, nouvelliste, toutes les formes d'art l'intéressaient. Deux générations plus tard, la flamme artistique ne s'est pas éteinte, loin de là. Et celui que nous recevons aujourd'hui en est le digne héritier, Joseph Chédid, chanteur, auteur, compositeur, producteur, Hey Friend est son troisième album, pop, rock, des textes qui expriment les doutes et les espoirs du moment, mais avec une énergie qui fait du bien. Et il est avec nous sur le Pont des Arts. Bonjour Joseph Chédid.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est un bel album, 11 titres, pas mal d'invités, vous nous en parlerez. Il est paru chez Maison Rock. C'était, si je ne me trompe pas, le titre de votre premier album, Maison Rock. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? C'est en référence à la house ?
Oui, exactement. Oui, c'est ça, Maison Rock. C'était vraiment l'idée de la house rock. Quand j'ai fait mon premier album, j'avais envie de mélanger la house, cette musique dansante, cette musique du corps, avec le côté rock... qui était aussi de mes influences aussi. Et puis, en fait, c'est devenu house, c'est devenu, je l'ai francisé par Maison Rock.
Voilà.
Et il y avait ce côté à la française d'un coup. Et donc, c'est devenu Maison Rock, cette petite formule.
Vous êtes venu avec votre guitare. Les balances sont faites. On aura le plaisir de vous entendre pour deux titres en direct. On vous entraînera également au Québec. Là-bas, c'est le Mois Multi, un festival qui met en avant des artistes travaillant avec l'intelligence artificielle. Parmi eux, Mathieu Valade, qui présentera une installation visuelle comme un cercle de feu au-dessus du public. Il ne connaît pas tout à ces technologies, mais il dit « essayons ».
Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment moyen de savoir comment sont faites nos technologies. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a sous le capot de nos téléphones, comme on savait jadis qu'est-ce qu'il y avait sous le capot de nos voitures. Il y a une dimension presque mystique maintenant à la technologie, mais je pense qu'il faut quand même essayer ou essayer de se les approprier un tant soit peu. C'est un train qui va passer de toute façon.
Voilà, reportage de Pascal Guéricola qu'on retrouvera en direct de Québec. Et puis, pas de jeudi sans notre café polar avec vous. Catherine Fruchon-Toussaint, bonjour.
Bonjour Nathalie, bonjour à toutes et à tous.
Votre coup de cœur du jour va à une détective qui vit à Nice, dans le sud de la France, et qui est l'héroïne récurrente d'une série de romans noirs.
Oui, signée de Michèle Pedignelli, elle-même niçoise, mais aussi d'origine corse et italienne. Vous l'aurez compris, c'est un cocktail qui ne manque pas de caractère, comme je vais vous le raconter tout à l'heure.
À tout à l'heure.
RFI sur le Pont des Arts.
Assim, sem querer, procurei te conhecer. Compus um verso do meu universo, tentando lhe dizer. Mesmo pisando em outro chão, compartilhamos uma conexão.
Hey friend, just tell me how.
Hey friend, effacer.
Friend, le titre qui donne son nom à cet album, Joseph Chédid, qui fait partie de son côté solaire. Vous y chantez évidemment l'amitié, mais cette amitié, en l'occurrence, elle a été nouée avec celui que l'on entend, hein, Camilo Solano, via un réseau social. Racontez-nous cette histoire.
Oui, en fait, Camilo m'a contacté il y a 3 ans maintenant, justement la veille de Noël, comme j'en parle dans la chanson, pour me dire qu'il aimait ma musique, mon univers, etc. J'ai au début cru à une blague. Parce que bon, sur Internet, on sait jamais toujours ce qui peut se passer. Et puis en fait, j'ai découvert un artiste qui est auteur de bande dessinée et musicien. Et puis il y a une amitié vraiment qui s'est créée. C'était à l'époque du Covid et tout ça. Et puis voilà, cette amitié s'est tissée, on a décidé de faire cette chanson ensemble et qui a été vraiment un point de départ pour cet album finalement.
Ouais, ça a été un point de départ. C'est une amitié donc qui débute sur les réseaux sociaux, ça fait partie des bonnes surprises hein, que ces réseaux peuvent parfois nous réserver. Vous êtes là complètement à contre-courant du sentiment général, j'allais dire, qui nous dit en ce moment que les réseaux, ça nous fait du mal, que ça ne produit que du harcèlement en ligne, que de mauvaises choses.
Mais je suis tellement moi-même sujet à tout ce que les réseaux sociaux peuvent avoir de négatif et d'anxiogène que je trouvais ça intéressant justement de mettre en lumière quelque chose d'un peu positif parce que pour moi c'est tellement presque acquis que les réseaux sociaux sont quand même très problématiques que je trouvais ça intéressant de rappeler que ça peut créer de la connexion et de finalement voir aussi l'aspect positif en tout cas de notre connexion d'Internet, de tout ça.
Et la connexion, d'ailleurs, elle s'est réalisée avec Camilo Solano, puisqu'il est venu au lancement de l'album à la Maroquinerie il y a quelques temps.
C'est ça, et on a eu la chance de se rencontrer en vrai et de confirmer cette amitié en chair et en os. Et c'était très intéressant de voir comme on était déjà amis et sans s'être jamais vus, et que d'un coup, on pouvait se toucher, se prendre dans les bras, et tout ça, c'était très, très curieux, quoi. Très curieux comme sensation et magnifique parce que c'est vraiment quelqu'un de merveilleux.
J'imagine. Au-delà de lui et de vous, c'est vrai que dans ce titre, on parle français, on parle anglais, on parle portugais. Vous aimez célébrer ce multilinguisme, ce contact entre les cultures, cette ouverture aux autres.
C'était l'idée de cet album. C'est un album vraiment qui traite de la fraternité un peu comme fil conducteur. Et c'est la fraternité au-delà des frontières, évidemment, parce qu'aujourd'hui, c'est le monde qui se connecte qui a profondément besoin de bienveillance, qui a profondément besoin de respect, de se comprendre les uns les autres, de tolérance. Et donc, c'était une manière d'incarner aussi ça.
Alors, il y a beaucoup d'invités sur cet album. On en entendra certains tout à l'heure. Mickey Green, qui est australienne, une autre chanteuse, Bro, le bassiste Stégonaut et votre père, Louis Chédid. Mmh. En général, quand on reçoit un artiste qui est comme vous, fils d'artiste, on essaie de pas trop le ramener à sa famille. Mais c'est vrai que chez vous, on sent que ça fait partie de vous et que c'est tout à fait naturel, Joseph Chédid.
C'est vrai que je crois qu'on c'est des métiers de transmission, la musique. Il y a des familles de boulangers, des familles de musiciens, des familles et on transmet. Je crois que la fonction de l'artiste, c'est de transmettre. Moi, je suis fier de ce qu'on fait. Mes anciens.
Sur votre premier album, d'ailleurs, vous chantiez sous le pseudonyme de Selim, qui renvoie à vos ancêtres, c'est ça ?
Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est vrai que ça a toujours fait partie de ma démarche. Et là, en plus, devenant père aussi avec cet album, j'avais aussi envie que mon père. Il y avait mon fils, il y avait mon père. Pour moi, ça faisait aussi partie de cette fraternité aussi, de ce lien.
Ouais, et cette fraternité, elle s'est matérialisée avec une tournée en famille, il y a quelques années. Mmh. Donc avec Louis Chédid, votre père, Anna, votre sœur, Nash de son nom de scène, Mathieu, M, votre frère. Mmh. On va écouter un tout petit extrait qui remonte à 2016. C'était aux Victoires de la Musique où vous étiez réunis sur scène, tous les quatre.
Alors,
Alors je vous propose qu'on mette un peu d'ambiance, parce qu'une famille sur scène, c'est quand même pas courant, s'il vous plaît. Donnez-nous de l'amour, levez-vous, mais mettez de l'ambiance, s'il vous plaît, donnez-nous de la chaleur.
Debout, debout.
Ah oui. Le plus important, c'est l'amour qu'on se donne maintenant, tout de suite, pour balancer des bonnes ondes sur la planète. Donnez tout ce que vous avez. D'être bizarre dans nos assiettes, pauvre beefsteak. La petite Juliette et son Roméo tournent à poil dans les films porno. Y'a pas plus d'amour sur pellicule que de fleurs sur le bitume. Attention, t'as beau pas être beau.
Voilà, ce titre, votre père, Louis Chédid, « T'as beau pas être beau », M, en ambianceur de la salle, Joseph Chédid, vous avez grandi en musique avec eux, incontestablement. Ils vous ont marqué, ils vous ont influencé.
Bah oui, complètement. Ils m'ont aussi transmis, ils m'ont appris justement la musique. Mon père m'a peut-être plus transmis le fait de faire des chansons. Mon frère m'a donné le goût de la scène, de la guitare électrique. Voilà, du spectacle aussi, ma sœur Émilie aussi, et puis avec Anna on a écrit nos premières chansons ensemble, ma mère aussi qui est toujours présente sur chacun de mes albums, qui fait partie vraiment de mes confidentes aussi, de mes guides aussi, et évidemment ma femme aussi maintenant, mon fils qui a un rôle, donc oui tout ça c'est précieux quoi, c'est... Il y a de l'amour, donc c'est vrai que c'est beau.
Et il y a dans cet album, dans ce nouvel album, un titre en duo avec Louis Chédid, hein, « Cultiver le bonheur ». C'est un peu le fil rouge de cet album, d'ailleurs, Joseph Chédid, « Cultiver le bonheur », comme on va l'entendre tout de suite, si vous voulez bien, dans un premier live tiré de « Hey Friend ». Encore une incitation à l'optimisme, hein, ça s'appelle « Le syndrome du mauvais monde ». Vous nous en dites un mot, vous installez, vous nous l'interprétez.
Ouais, bah écoutez, syndrome du mauvais monde, c'est vraiment l'idée que de se reconnecter à la simplicité et puis de se reconnecter au cadeau de la vie.
De rechercher la beauté.
Et de se réémerveiller du monde.
Ouais. On y va, on vous laisse vous installer.
Rigolade majestueuse des âmes lumineuses, chaque vie a le droit d'être vertueuse. Le regard légendaire de ceux qui considèrent les racines des arbres séculaires. Changez-moi de vision, je ne veux plus de ces interférences, c'est imminent. Prochaine seconde, changez-moi de vision, changez-moi de fréquence. Bye bye le syndrome du mauvais monde. J'ai un toit sur la tête, un repas dans l'assiette, la musique et la fête, Dieu que c'est chouette. Une famille honnête, femme et enfant poète, des amis bien toltecs sans internet. Changez-moi de vision, je ne veux plus de ces interférences, c'est imminent. Prochaine seconde, changez-moi de vision, changez-moi de fréquence. Bye bye le syndrome du mauvais monde. L'amour, de la joie qui m'entoure, ça m'émeut chaque nuit et chaque jour. Pour celui qui m'écoute, le nez dans le mazout, laisse partir tes doutes, poursuis ta route. Change-toi de vision, tu ne veux plus de ces interférences, c'est imminent. Prochaine seconde, change-toi de vision, change-toi de fréquence. Bye bye le syndrome.
30 secondes. Bye bye, bye bye, bye bye, le syndrome du mauvais monde. Ouh, ouh.
Le syndrome du mauvais monde, Joseph Chédid, en live du studio 41 sur RFI. Merci, changez-moi de fréquence. Vous êtes un peu un partisan de la méthode Coué, hein, Joseph Chédid. Quand tout va mal, se convaincre que tout va bien, qu'il faut regarder ailleurs et qu'il faut essayer de d'ôter ce pessimisme de nos cœurs.
Je sais pas si c'est la méthode Coué, mais je crois que c'est plutôt que à un moment partir du constat aussi simple que on a une influence sur le monde malgré tout, malgré le temps autour de nous. Et que si déjà on arrive à essayer de prendre nos responsabilités sur les petites actions du quotidien, sur l'impact qu'on a sur les gens autour de nous, c'est déjà une manière de s'engager, parce que c'est vrai qu'on est tellement impuissant face à beaucoup de choses qu'essayons peut-être déjà de s'occuper de ce qu'on maîtrise un peu, quoi.
Vous avez l'impression de faire partie d'une génération ou d'un environnement, d'un pays, d'une société trop pessimiste ?
Je ne sais pas si c'est trop pessimiste, parce que je pense qu'il y a des raisons de ne pas être dans l'optimisme permanent, mais par contre, ou dans l'optimisme tout court d'ailleurs à des moments. Mais je pense qu'en tout cas, ça n'empêche pas de croire en la paix mondiale et d'avoir envie d'aller vers ça, quoi.
Après Camilo Solano, il y a aussi Mickey Green sur cet album qui interprète avec vous ce titre, Silence.
Conscious brothers from afar, kids growing among the stars. We are not alone. What do we convey?
Silence, Mickey Green avec vous en duo, Joseph Chédid sur cet album Hey Friend. Vous nous en dites un mot de Mickey Green, c'est une artiste australienne installée en France.
Oui, qui avait ce morceau haut là, qui avait été très populaire à une époque et surtout qui est devenue une amie avec les années. Et quand j'ai écrit cette chanson, j'ai vraiment pensé à elle en me disant que sa sensibilité, sa voix serait vraiment adaptée à la chanson Et voilà, j'ai
et vous regrettez
que...
pas. Et non, nous non plus. Non. On parlait tout à l'heure des influences familiales, mais évidemment, vos influences musicales ne se résument pas à la famille. Vous avez été, vous en parliez un tout petit peu tout à l'heure, un grand auditeur de rock. Il y a qui dans votre podium secret, Joseph Chédid ?
Mon podium, pas si secret, c'est qu'il y a pas mal de soul music. De Stevie Wonder, Nina Simone, Ray Charles, toute cette famille de merveilleux. Et il y en a beaucoup, de toute façon, que je n'aurai pas le temps de tous vous les citer. Il va y avoir aussi toute la famille, justement, Hendrix, The Doors, Led Zepp, etc. La famille un peu plus rock progressif, Can, Soft Machine, ce genre de truc, la famille Radiohead, James Blake aussi pour le côté un peu plus musique électronique, il va y avoir Mac DeMarco pour le côté plus songwriter, des groupes comme Crankbin aussi pour le côté plus instrumental.
Donc vous écoutez de tout et vous aimez?
Je suis un grand fan des Beatles aussi. Voilà, c'est... Mais j'aime la musique, je suis curieux et j'aime souvent les... Et Björk, des gens comme ça, les gens aussi qui font, qui explorent. J'ai un petit côté, moi, un petit peu artisan. Du coup, j'aime bien les gens qui explorent, qui font des choses qui peuvent peut-être paraître un peu bizarres, mais je suis assez friand aussi.
Et votre style musical à vous, vous le définiriez comment ? Parce que je disais tout à l'heure un peu rapidement, peut-être pop, rock. Vous, quelle définition vous en faites ?
Bah, en tout cas, moi, c'est vrai que quand j'écris des chansons, j'ai toujours envie de m'adresser aux gens, quels qu'ils soient. Je pense pas... une niche, je pense pas à des âges particuliers. J'aime pouvoir toucher quelqu'un de tout âge, à tout moment de sa vie. Donc, pour moi, le côté pop, ça, c'est peut-être ça. Et puis le côté rock, c'est le côté peut-être un peu plus sauvage, un petit peu plus expériment. Voilà, il y a peut-être un petit côté un peu... C'est difficile de mettre des mots là-dessus, mais oui, il y a du rock, il y a de la pop, il y a une petite notion un peu électronique, un peu expérimentale aussi sur certains des touches comme ça, un côté chansonnier aussi.
À quel moment est-ce que vous vous êtes dit, après avoir écouté les autres, après avoir écouté les vôtres aussi, à quel moment est-ce que vous vous êtes dit, ben voilà, moi, ce que j'ai à dire, c'est ça, et je vais le dire de cette façon-là. Ça s'est fait comme ça ou pas du tout ? Ou ça s'est fait plus naturellement ?
Je me souviens, à mes 18 ans, de m'être dit... quelques années après avoir commencé, c'est-à-dire j'ai dû commencer à 13 ans à faire peut-être une chanson, à 18 ans, je me suis vraiment dit, bah tiens, je faisais de la musique, pas trop des textes. Et à 18 ans, je me suis dit, bah tiens, ça, ce serait un texte pour moi. Et donc, il y a eu ce truc-là. Mais à l'époque, j'écrivais d'une manière... C'est presque avec des sons, je savais pas ce que je racontais.
Ça n'était pas abouti.
Ouais, en tout cas, ouais, c'est ça. Mais c'était assez poétique et ça créait autre chose. Et avec le temps, je me suis vachement reliée au sens en travaillant de plus en plus. Donc voilà, c'est venu progressivement aussi. Mais je crois que par contre, j'ai toujours eu un message un petit peu, justement, ce message de paix. Je l'ai toujours un peu porté en moi et j'ai toujours eu envie de cheminer vers ça malgré le fait que la peine soit pas partout, et peut-être parce que je cherche aussi en moi une certaine forme de paix aussi.
Et que c'est la musique qui vous l'apporte. On va partir peut-être sur un deuxième live, si ça vous va.
Bien sûr.
Ça s'appelle 2020, 2020 en anglais, dans le texte. Qu'est-ce qu'elle a en particulier cette année pour vous, Joseph Chédid ?
En fait, 2020, c'était l'idée de parler de la décennie 2020 et de l'enjeu, justement, en lisant un livre de Mathieu Ricard, qui fait partie aussi de mes inspirations.
L'année Covid, enfin c'était l'année des confinements.
La décennie 2020 était très décisive par rapport au climat, et donc je me suis dit que c'était bien d'en parler parce que c'était bien de faire voyager le message à mon niveau un petit peu aussi.
On vous écoute. 2020, Joseph Chédid en live sur le Pont des Arts avec nous.
Le grand défi du siècle, il n'est pas dans ta tête. Je te jure qu'il est né, protégeons la planète. Et ces millions de gens qui sont comme nos enfants, inexorablement. Aurons-nous le courage de franchir les mirages, de former l'entourage toujours un peu plus sage? Ça se joue maintenant, même si c'est déroutant. Serait-ce la décennie pour se réinventer, changer nos modes de vie et nos manières de penser, et de hisser les voiles, la tête dans les étoiles. Et si courageusement, dans l'orage qui gronde, nous devenions le changement que l'on veut voir pour le monde. Gandhi, le non-violent, nous le disait clairement dans les années 1900.
La décennie 2020, chantée par Joseph Chédid pour nous en direct sur RFI. Elle a changé quelque chose pour vous, cette décennie-là? Vous dites « sors de ta tête, protège la planète ». Est-ce que pour vous, elle a marqué un tournant, cette décennie 2020, dans le comportement et dans la prise de conscience des choses?
Oui, je pense aussi que c'est, ça, c'est venu assez progressivement aussi, toutes ces prises de conscience, mais en tout cas... Elle a marqué un tournant parce que moi, dans cette décennie 2020, je suis devenu père. Et je pense que c'est ça qui a vraiment bouleversé cette décennie pour moi. Et du coup, ça a changé mon rapport aussi au monde, probablement. Parce que voilà, ça change quand même une vie. Et donc, peut-être qu'effectivement, ma sensibilité, elle s'est un petit peu développée sur certains trucs. Et que je crois que j'assume peut-être plus ma sensibilité aussi qu'à une époque. Peut-être que je laisse mes émotions... Je leur donne plus d'espace qu'à une époque.
C'est votre résolution de la décennie 2020?
Bah en tout cas, ma résolution de la décennie 2020, c'est d'essayer d'être... Et moi, j'ai cette phrase de Gandhi qui me suit depuis bien longtemps maintenant, c'est « Soyez le changement que vous voulez voir pour le monde ». Et voilà, ça restera ma résolution encore de cette décennie, c'est-à-dire voilà, essayer progressivement d'aller vers son authenticité et puis... voilà, d'apporter ce qu'on peut, du mieux qu'on peut. C'est une manière de mettre sa petite goutte dans
l'océan mondial. Ouais. Joseph Chédid, vous restez avec nous. On va explorer justement ce monde d'après. On part pour Québec tout de suite.
Oh, hi! Welcome to the Mother Project, a data center for all data centers and much more.
La ville de Québec où se tient le Mois Multi, le festival Le Mois Multi. Cette année, il propose plusieurs œuvres d'artistes en lien avec les outils d'intelligence artificielle. C'est un nouveau langage que certains utilisent dans leur création. Bonjour Pascal Guéricola.
Bonjour.
Vous vous êtes intéressé à Maureen Béguin-Morin, une plasticienne, performeuse, vidéaste, qui fait donc une résidence de création dans le cadre de ce Mois Multi.
Exactement. Il y a quelques instants, vous venez d'entendre la voix de son alter ego, un pur produit en apparence de l'intelligence artificielle, en théorie très lisse, blanche, souriante. Alors, on est en 2050 et l'atmosphère trop chaude sur la planète nous oblige à vivre dans des data centers où cette créature artificielle nous accueille. C'est la proposition de Motherboard mise à jour que l'artiste va présenter le 27 février. Et si la présentation démarre avec l'assistante virtuelle, rapidement, la véritable artiste prend la scène en chair et en os sur scène.
On voit Maureen, cette intelligence artificielle avec un fond 3D.
I am Maureen, the artificial intelligence of the Mother Data Center.
Elle apparaît toute parfaite, toute lisse au début. Elle raconte, elle nous balade, elle nous guide dans un espace fantastique. C'est juste un écran, c'est juste une assistante parfaite. Mais la réalité, elle est concrète, matérielle et pleine de défauts. Je parle au public et je montre des schémas, des graphiques. Je montre l'impact qu'a, par exemple, une donnée dans un data center. Je montre plein d'articles les uns à la suite des autres en les commentant pour expliquer que tout ça, c'est absolument pas cloud. Pour refroidir une donnée, il y a de l'eau qui passe. L'eau est rejetée souvent au même endroit, donc ça réchauffe les fleuves. Si, par exemple, il y a des saumons dedans, si leur milieu est trop chaud, ils meurent. Et nous, on ne peut plus se nourrir. Enfin, ça, c'est un exemple très noir et blanc que je propose, mais c'est aussi simple que ça. Tous les impacts qu'on va avoir vont utiliser de la matière première de notre planète, de l'eau, de la terre, pour 4 heures de enjoyment en ligne.
Et donc, Pascal, c'est un discours clairement critique que propose cette artiste. Elle montre, elle décortique l'envers du monde numérique.
Oui, c'est un pur produit de son époque, Maureen Béguin-Morin, qui navigue entre les deux univers. Elle est née pratiquement avec un ordinateur entre les mains, mais en chemin, sa conscience environnementale l'a rattrapée.
Ce que j'essaye de moins utiliser, c'est tout ce qui va être de l'ordre de l'intelligence artificielle générative. C'est celle, en tout cas, qui va être le plus énergivore et le plus destructeur pour la planète. Donc, c'est tous les outils d'OpenAI, c'est les outils d'image aussi. Mon but en tant qu'artiste, c'est de créer des images. La 3D, par exemple, j'utilise Blender, qui est un outil open source, accessible à tous. Je dessine aussi énormément. Il y a beaucoup de dessins aussi dans mes projets. J'adore jouer avec des textures très différentes de ce qu'on connaît aussi de l'Internet actuel. Et du coup, moi, j'essaie d'imaginer des endroits où il y a beaucoup de couleurs, il y a du rose, il y a du orange. Ces endroits joyeux, en fait. On vit avec la technologie. On n'a pas le choix. C'est comme ça. Moi, je suis née avec un ordinateur dans ma chambre. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer de réinventer des nouvelles formes ensemble.
Voilà Maureen Béguin-Morin qui éclaire un côté pas très glamour des outils d'intelligence artificielle. Pascal, d'autres artistes les intègrent, eux, dans leur création. C'est le cas de l'artiste en art visuel Mathieu Vallade. Vous l'avez rencontré alors qu'il déchargeait le matériel pour mettre en place son installation au Grand Théâtre de Québec.
Oui, brasier d'abîme descendant prend place dans une petite salle de spectacle dès le 12 février. Il s'agit de 16 écrans de téléviseurs au plafond avec une série de miroirs sans teint, une danse de magma en ébullition qui forme un immense cercle de feu au-dessus du public qui est facilité par l'utilisation de l'IA.
Mais cet artiste québécois, d'abord orienté vers le dessin et l'architecture, il va plus loin dans l'utilisation de ces outils ?
Mathieu Vallade projette aussi des vidéos sur des hublots. Il a imaginé des créations dystopiques réalisées à partir de monuments de la modernité, comme un quartier de Stuttgart en Allemagne.
La mer arrive dans cette ville incendiée, qui est en hauteur, qui est sur des collines, donc c'est difficilement imaginable d'avoir la mer qui arrive là. L'eau prend feu ou tranquillement la fumée et les incendies deviennent vont devenir des nuages, vont devenir un ciel. On a des étoiles filantes. Bon. Pour moi, qui est un artiste en art visuel, qui a les moyens que j'ai, là, ça me donne accès à un pouvoir de création que je n'avais pas ou que je ne pourrais jamais avoir par moi-même sans passer par des grandes compagnies d'effets spéciaux. L'accès à des outils d'intelligence artificielle, ça révolutionne ce que chacun est capable de faire. Dans le fond, je pense que ce sont des augmentateurs. Faire un film de cette qualité-là, moi, j'en avais pas les moyens. C'est impossible. Donc, ça me donne ces moyens-là.
Et Pascal, Mathieu, vous avez également parlé du regard qu'il porte sur les outils d'intelligence artificielle.
Plus j'arrive à avoir précisément ce que je veux, à donner une commande qui va amener l'image, ou parfois aussi qui va me surprendre, que je vais arriver à transformer aussi, et en jouant comme ça de la génération d'images à la génération de vidéos. Donc je peux amener ensuite les images en vidéo, je peux repartir des vidéos, les ramener dans des générateurs d'images pour en faire d'autres choses. Donc, il y a un jeu là, de génération comme ça qui est très riche pour un artiste. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment moyen de savoir comment sont faites nos technologies. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a sous le capot de nos téléphones, comme on savait jadis qu'est-ce qu'il y avait sous le capot de nos voitures. Il y a une dimension presque mystique maintenant à la technologie, mais je pense qu'il faut quand même essayer ou essayer de se les approprier un tant soit peu. C'est un train qui va passer de toute façon.
Voilà, et cette installation de Mathieu Valade est disponible jusqu'au 11 mai dans une des grandes salles du Théâtre de Québec, du Grand Théâtre de Québec. Une autre façon de découvrir l'IA dans les arts. Merci Pascal Guéricola.
Merci à vous.
À très bientôt. Et je vous signale que lundi, nous parlerons justement culture et intelligence artificielle sur le Pont des Arts à l'occasion du Sommet de Paris.
C'est l'heure. Café Polar.
Café Polar 100% féminin, Catherine Fruchon-Toussaint. Aujourd'hui, vous nous faites découvrir la nouvelle aventure d'une héroïne de roman noir née sous la plume de l'écrivaine Michèle Pedignelli.
Oui, une autrice qui a publié son premier polar en 2018 sous le titre Boccanera, qui est le nom de famille de sa protagoniste principale, Giulia, de son prénom. Une ancienne journaliste qui s'est reconvertie en détective privée et qui, pour la cinquième reprise, se retrouve au cœur du nouveau roman de l'écrivaine qui, lui, s'intitule « Un seul œil » aux éditions de l'Aube. Et là, elle a de nouveau le rôle principal, une femme enquêtrice, donc, ce qui, pendant longtemps, n'a pas été très courant dans le genre policier, plutôt masculin, comme le confirme Michèle Pedignelli, qui, elle, a voulu inventer un personnage plus proche d'elle.
Oui, c'est ça. C'est vrai que moi, je lis du polar depuis que je sais lire à peu près. Et j'ai eu beaucoup de mal à... Enfin, j'étais obligée de m'identifier à des vieux mâles blancs, comme on dit maintenant, sympathiques, mais qui n'étaient pas des femmes. Et quand je me suis mise à écrire, spontanément, mon personnage était une femme. Alors, il y a de plus en plus de femmes qui écrivent des polars et il y a de plus en plus de personnages féminins importants ou de premier plan. Moi, j'avais juste envie de faire d'écrire une femme qui m'a... Oui, effectivement, qui me ressemble, qui est 50 ans. Il y a peu d'héroïnes de 50 ans. Et c'était aussi pour dire qu'on n'a pas forcément de date de péremption. Donc, elle me ressemble parce qu'on a un peu les mêmes indignations, les mêmes coups de gueule, on va dire, les mêmes énervements. Je suis assez énervée de manière générale. Et du coup, j'écris, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, donc je partage avec elle, outre le fait de porter des Doc Martens, des énervements face au monde actuel.
Voilà, c'est donc une détective très énervée, comme son autrice. On l'a compris. Qu'est-ce qui la met en colère, Catherine ?
Beaucoup de choses, à commencer par ce qui se passe dans sa ville natale, Nice, où vit l'écrivaine, car visiblement les chantiers, les travaux permanents, la destruction du Grand Théâtre, non seulement l'empêchent de circuler, mais pire, c'est tout le patrimoine qui disparaît. Mais plus grave encore, c'est quand son meilleur ami se fait attaquer dans sa galerie d'art par un inconnu et l'agression est d'une telle violence que ce pauvre garçon, Dan, se retrouve dans le coma à l'hôpital pendant des semaines. Autant dire que ça ne plaît pas du tout à Giulia, qui va donc découvrir un trafic de blanchiment d'argent dans ce milieu artistique. Est-ce que ça lui a été inspiré par une histoire vraie à Nice, Michèle Pedignelli ?
Oui, c'est des choses qui se pratiquent, hein. C'est simple en fait, c'est assez simple pour blanchir de l'argent. Effectivement, là, bon, là j'ai poussé un peu à l'extrême en disant, bah, voilà, il suffit de créer 2-3 croûtes, d'avoir assez d'argent pour ouvrir une galerie, et puis bah, y a des gens qui viennent acheter ça, 10 000, 20 000, 50 000, comme ça, et l'argent est blanchi comme ça. Ça existe à Nice, ça existe ailleurs, mais bon, à Nice, on a quand même un petit vivier de galeries d'art. Il y a une galerie qui a été épinglée il y a quelques années là-dessus. Mais ce n'est pas extraordinaire, ça existe. Et je trouvais que c'était intéressant comme moyen, c'est-à-dire que même ça, même la beauté de l'art ou de l'art contemporain ou l'innovation ou la création, parce que là, est forcément détournée pour faire beaucoup de fric ou pour laver de l'argent sale.
Voilà. Voilà, une enquête dans le milieu des galeries ou des pseudo-galeries d'art. Y a-t-il dans ce roman d'autres spécialités niçoises?
Vous ne croyez pas si bien dire, Nathalie, puisqu'avec Giulia qui fait feu de tout bois et que l'on suit autant sur le terrain policier que sur le terrain personnel avec ses amis, ses amours, j'ai donc découvert l'existence d'une communauté dont j'ignorais tout. Il s'agit des pénitents, des hommes et des femmes qui ont un rôle très particulier dans la cité, qui appartiennent à des groupes différenciés par la couleur de leur habit. Bref, c'est une sorte de confrérie très connue à Nice et j'ai demandé à Michel Pedignelli de nous en dire un peu plus sur ces pénitents.
C'est des ordres de laïcs qui sont là depuis très longtemps, enfin certains depuis le Moyen-Âge. Il y en a quatre, il y a les blancs, les bleus, les noirs et les rouges. Et chacun a une particularité. Il y en a qui sont les gardiens du Saint-Suaire. Il y en a qui sont... Les blancs, eux, historiquement, sont des gens qui vont s'occuper des blessés, des malades, des indigents. Les noirs s'occupaient plus des deuils, enfin des chagrins. Donc, c'est vraiment des gens de Nice. Toutes les catégories socio-professionnelles sont représentées, en général.
Donc des civils?
Voilà, des civils, qui sont des gens catholiques, très croyants. Et ça perdure, c'est-à-dire que je crois que les pénitents blancs, il en reste à Nice et à Montpellier, il me semble, et peut-être dans un autre, c'est assez rare. Mais à Nice, en tout cas, il y a au moins quatre ordres, avec quatre chapelles bien définies, et qui sont, qui ont pignon sur rue, et qui sont assez connus. Bref, voilà. Mais tous les ans, il y a une occasion de faire une procession.
Voilà, on s'immerge dans les différentes spécificités de Nice avec ce roman, Catherine. Mais pourquoi ce titre, Un seul œil?
En fait, il y a de nombreuses références dans le roman. C'est à la fois l'œil de Giulia, dans lequel son amie Dan a vu la flamme qui brillait la première fois qu'ils se sont rencontrés. C'est aussi le mauvais œil, la malédiction que l'on jette à certaines personnes. Mais c'est aussi, hélas, né d'un constat que l'autrice a fait à l'occasion d'un acte de terrorisme qui, souvenez-vous, a frappé Nice il y a quelques années. Michel Pedignelli raconte.
Le 14 juillet 2016 à Nice, il y a eu un attentat monstrueux, donc avec plus de 80 morts et plus de 200 blessés. Et on s'est aperçu que le camion qui a foncé dans la foule a fait 11 repérages dans les jours précédents, a même stationné sur la promenade des Anglais. Or, il est interdit aux camions de circuler sur la promenade des Anglais.
Sachant aussi qu'il y a des caméras dans toute la ville, je crois que Nice, c'est la ville la plus sécurisée avec la vidéosurveillance, justement, et on n'a pas vu ce camion.
Voilà, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait 1000 caméras de vidéosurveillance sur Nice. Maintenant, je pense qu'on a doublé ou triplé le nombre. Mais je le fais dire à un des personnages, à quoi ça sert d'avoir 1000 caméras s'il n'y a pas un œil ouvert? C'est-à-dire que les gens qui étaient derrière les écrans de ces caméras, personne n'a dit « c'est quand même bizarre ce camion qui passe et qui repasse, il faudrait peut-être le contrôler ». L'idée est partie de ça et puis après à infuser dans tout le livre.
Un seul œil, c'est donc aussi l'œil à ouvrir au bon moment. Catherine, c'est un roman d'action, d'amitié, d'amour, on n'en a pas parlé, mais c'est à découvrir, à la fois noir et drôle, et on a l'impression que l'autrice s'amuse beaucoup à travers son personnage de détective.
Oui, c'est-à-dire qu'elle lui prête non seulement ses énervements, sa colère contre l'injustice, ses choix de femme, mais aussi ses propres lectures, car figurez-vous ici que Giulia fait appel à un commissaire en Italie, le commissaire Sonnery, qui vit à Parme, et c'est tout simplement le héros récurrent d'un autre écrivain, Valerio Varesi, auteur italien. Explication, Michel Pedignelli.
En fait, j'avais vraiment envie de faire un clin d'œil. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai découvert Le Fleuve des Brumes, qui était le premier, je pense, roman publié en France, avec son commissaire Sonnery. On s'est rencontrés, je l'ai fait venir à Nice pour présenter son travail. Et je me suis dit, Diou, elle a besoin d'un coup de main. Et donc, on va faire appel au commissaire Sonnery.
Qui est à Parme.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il a le même amour de sa ville que Diou de Nice. Vraiment, il parle de Parme avec cet amour, haine, etc. Mais lui, il ne peut vivre que dans des atmosphères embrumées, humides, pluvieuses. Dès qu'il voit du soleil, il ne se sent pas bien. Bon, ouais, c'est un peu l'opposé de Diou. Mais finalement, on sent qu'ils ont une amitié qui existe. Et une fois que ce livre a été terminé, on m'a proposé d'écrire un livre avec Valerio Varesi. Ce qui est fait, qui sortira en mars prochain. Et donc là, j'ai écrit un livre à quatre mains, non pas avec le commissaire Sonnery, mais avec Valerio. Et nous avons écrit un livre voilà, qui s'appelle Contrebandier, qui parle de frontières.
Voilà, en attendant ce nouveau roman signé des deux auteurs, à lire d'abord Un seul œil de Michel Pedagnelli, la cinquième aventure de l'irrésistible détective privé niçoise Giulia Boccanera, qui paraît aux éditions de l'Aube dans la collection Noire. Et pour tout savoir sur les coulisses de ce livre, à écouter l'intégralité de ma rencontre avec l'autrice dans le podcast Café Polar.
À retrouver évidemment sur RFI.fr. Merci Catherine Fruchon-Toussaint. Demain, vous serez avec nous pour Littérature sans frontières et votre invitée sera
l'écrivaine libanaise Georgia Makhlouf pour son roman Pays amer, qui, à travers le destin de deux femmes photographes à Beyrouth, fait le portrait d'un pays très éprouvé mais aussi riche de beaucoup de ressources.
13h30, temps universel de rendez-vous avec Littérature sans frontières. Joseph Chédid, je ne sais pas si vous êtes lecteur de polar, mais en tout cas, Catherine Fruchon-Toussaint m'offre l'occasion de vous parler un instant du Liban, le pays de votre famille. Vous avez encore de la famille, vous y êtes allé avec votre père, vos frères et sœurs, vous êtes connectés à ce pays en permanence.
On a eu la chance d'aller jouer à Baalbek à une époque et un moment complètement inoubliable et de se sentir tellement
connecté. C'était il y a quelques années, hein, c'était avant la dernière guerre.
Ouais, exactement. Et c'est vrai que Adna et Mathieu, ils sont retournés juste avant que la guerre redémarre aussi. Mais c'est vrai que voilà, ils ont une intelligence, une finesse. Et puis, c'est des gens qui sont extrêmement... on a l'impression d'être en famille, quoi, quand on est là-bas. C'est vraiment étonnant.
C'est un pays où vous sentez bien.
Ouais. Et puis, il y a vraiment une connexion, quoi, avec le Liban qui est évidente. Et c'est un pays que j'aime vraiment beaucoup.
Joseph Chédid, merci beaucoup d'être passé aujourd'hui sur le Pont des Arts. Hey Friend, votre troisième album, est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et en concert le 7 mai à Rambouillet et en juin le 14 au festival La Belle Guitare dans le nord de la France. Demain, changement d'atmosphère musicale, on sera avec le groupe Voilà, je ne sais pas si vous les connaissez. Non. Voilà, c'est un collectif qui fait de l'afro-disco. Allez, on en écoute quelques secondes. Voilà, Sound System. Ils seront trois demain dans ce studio. Bruno Ovar, Patrice Cala et Tristan Bernard. Sur le Pont des Arts avec à la réalisation aujourd'hui Stephen Elsley et Mathias Taylor pour la partie live. Merci à eux, merci à Damien Roucou pour la programmation. Vous restez à l'écoute de Radio France Internationale. Dans un peu plus d'une minute, ce sera le journal en français facile et Radio Foot International avec Annie Gasnier. À demain.
Votre rendez-vous culturel sur le Pont des Arts, à retrouver du lundi au vendredi à 15h10 TU sur RFI et en podcast sur l'application Pure Radio.